De retour à Délirium environnemental, je vous rappelle que si on est fou comme des balais aujourd'hui, c'est que c'est la dernière émission de Délirium environnemental. Ouais. C'est vrai, je m'excuse auprès de tous les balais de la planète. Je m'excuse.
C'est bon.
On poursuit donc Délirium environnemental, troisième et dernière partie d'émission, donc après la revue de presse, revue de l'actualité. Un peu comme on l'a fait la semaine passée, on se prête au jeu de recevoir les collaborateurs de Délirium environnemental, ceux par qui cette émission fantastique est possible. Cette semaine, c'est donc Hugo Lachapelle et Nicolas Mainville qui se prêtent au jeu et on les reçoit pour qu'ils partagent leurs états d'âme, leurs préoccupations, les choses qui les bouleversent ou qui les touchent en environnement. Donc, ils partagent tout ça avec nous ou qu'ils nous posent des questions ou qu'ils fassent ce qu'ils veulent de ces 3 ou 4 minutes. Nicolas Mainville a eu accès à un scoop. Il connaît l'Energy Bill, il va nous expliquer ce que c'est, qui s'en vient aux États-Unis. Donc, un scoop hallucinant qui concerne les questions énergétiques. Nicolas Mainville, le micro t'appartient.
Merci, mais premièrement, je dois mettre un veto, puisque cofondateur de Delirium, je m'impose un 5 minutes.
Oh! D'accord.
Alors oui, vous savez que je suis très préoccupé par l'orientation énergétique des États-Unis, puisque, point de vue environnemental, ça nous concerne directement. Nous respirons l'air même émis, sorti de ces cheminées qui produisent de façon intensive des gaz à effet de serre, des polluants chez nos voisins du Sud. Et puis, les États-Unis sont à reviser leur stratégie énergétique pour se départir de leur dépendance envers les pays producteurs de pétrole. Et puis, c'est un projet de loi qui est en train de se négocier aux États-Unis qui devrait sortir le mois prochain. Un projet qui a une belle enveloppe budgétaire de 8 milliards de dollars et qui est, en fait, la représentation même de tout ce que vous rêvez en tant que promoteur pétrolier, gazier et carbonier pour ceux qui font du charbon. Alors, je veux vous parler rapidement de ces grandes lignes du projet parce que, point de vue environnemental, c'est désastreux. Première orientation, on investit massivement dans quoi?
L'exploitation pétrolière.
Le pétrole et le gaz. Comment et où?
Canada.
En Alaska, évidemment, en ouvrant le drilling, donc le forage dans la réserve faunique.
Oui, dans un parc naturel à Ventoux.
Exactement. Mmh. Deuxièmement, on enlève les taxes pour le forage dans le golfe du Mexique. Vous savez qu'il y a déjà des grosses taxes pour ceux qui exploitent dans cette région-là.
Quoi, c'était tant du trou?
Je pourrais pas dire le mécanisme. Troisième chose, on ouvre les vannes, point de vue financement, pour la recherche dans le forage de profondeur. Vous savez qu'on parlait récemment des hydrates de méthane, cette nouvelle source d'énergie qui est en fait du méthane sous forme de neige. Ce méthane qui représente évidemment un gaz à effet de serre massif, 21 fois plus puissant que le gaz carbonique. Alors, on investit 2 milliards dans ces recherches. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On enlève évidemment les contraintes environnementales pour construire de nouvelles raffineries. Qu'est-ce qui pourrait aussi empêcher justement cette indépendance des États-Unis envers les pays qui produisent du pétrole? Eh bien, c'est évidemment la réserve nationale de pétrole. Alors, on va augmenter la réserve nationale des États-Unis de 300 millions de barils à 1 milliard de barils.
C'est important.
C'est extrêmement important. Où est-ce qu'on s'en va aussi? On va forcer, évidemment, le fédéral a avoir le dernier mot sur n'importe quel projet gazier, méthanier, des ports comme on a ici à Gros-Cacouna ou à Lévis-Beaumont.
On n'a pas encore.
Si la population se met contre ces projets, eh bien, dans ce projet de loi, ça sera le fédéral qui devra décider si le projet s'impose ou pas. Et évidemment, ça l'enlève les droits aux États même, les États qui étaient jadis ceux qui décidaient de ça. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On investit 2 fois plus d'argent dans le charbon. Et c'est quoi 2 fois plus? Eh bien, c'est 2,5 milliards de dollars pour le développement du charbon. Et qu'est-ce qu'on va faire? On investit dans les assurances pour les centrales nucléaires. Vous savez que les centrales nucléaires ont des polices d'assurance assez serrées, puisque ces centrales nucléaires ont un risque environnemental majeur. Eh bien, on a augmenté de 20 ans l'assurance des centrales nucléaires pour justement étendre leur autonomie.
Hey, 20 ans, c'est du long terme.
C'est du long terme. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui est une embûche à la production pétrolière? Eh bien, c'est les gazolines moins polluantes. Vous savez qu'on a plusieurs mélanges de gazolines qui sont moins polluantes en ce moment. Eh bien, on va retirer du marché américain, états-unien, certaines gazolines qui sont moins polluantes pour s'assurer que la gasoline va maintenir un prix relativement bas.
Comme par exemple les biocarburants, c'est ça tu
parles? Non, en fait, vous voyez, une des choses qui va être investie dans ce plan, ce projet de loi-là, c'est 750 millions pour l'éthanol. On parlait de l'éthanol un petit peu plus tôt. Un des biocarburants très controversés puisque impliquant l'utilisation massive du maïs. Alors, on accumule comme ça des nouvelles environnementalement désastreuses puisque c'est complètement à l'encontre du développement durable, complètement à l'encontre de tout ce qui est fait comme pression internationale point de vue orientation énergétique. Et ça continue comme ça. J'ai même pas le temps de vous en parler. Mais tout ça pour dire que ce projet de loi qui nous est déposé ici, représente, selon moi, carrément un virage dans le mauvais sens et je lèverais même le terme exact de catastrophe environnementale majeure. J'aime ça.
Sensationnalisme.
Ben voilà. Moi, je suis Nicolas Mainville. Tu m'étonnes de dire que c'est un virage parce que je n'ai pas vu ou du moins pas entendu non plus, d'orientation de M. Bush qui s'en allait dans une direction autre que cela.
Non, écoutez, c'est au contraire, c'est un virage encore plus à droite que ce que M. Bush annonçait auparavant. C'est ça qui est extrêmement alarmant. C'est que jadis, on avait, oui, officialisé nos intérêts pour le pétrole. Et puis maintenant qu'on veut se départir de, justement, cette dépendance envers les énergies des pays étrangers, eh bien, au lieu de le faire avec les énergies vertes, on va puiser plus de charbon, plus de pétrole, plus de gaz naturel, on va faire plus de forage, puis on va continuer plus dans l'avenue qui est la plus polluante.
Mais moi, ce qui me révolte le plus, c'est que ce pays-là, sur la scène internationale, c'est de un, le pays qui a le plus d'ennemis au monde, c'est le pays qui est le plus endetté au monde, et c'est le pays que l'on laisse le plus faire ce qu'il veut au monde. Je veux dire, en tant que Canadien, là, je pourrais-tu, s'il vous plaît, excusez le langage, mais hostie qu'ils l'ont l'affaire, les Américains, là, comme disait Elvis Gratton, on pourrait-tu s'enlever ça de la tête, puis essayer de faire en sorte que ben l'argument, ben c'est notre plus gros partenaire économique, on se le mette où on pense, puis qu'on réoriente au complet notre façon de faire les choses pour se détacher d'une imbécilité pareille.
Ben moi, ça me confirme aussi que le plus grand problème environnemental, c'est justement la bêtise humaine et l'imbécilité ambiante, particulièrement des classes politiques, parce que si quelque chose doit nous faire foncer dans le mur à un rythme plus effréné, ben c'est bien justement la stupidité des classes politiques qui proposent des projets de loi comme ça, malgré que la population se mobilise dans de toute autre direction, tout comme la classe scientifique, entre guillemets. Un dossier à suivre. Merci beaucoup de t'être révolté à ce sujet, Nicolas Mainville.
Je suis vert, 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 je suis vert de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre, cette jolie terre que nos pères, nos grands-pères avaient su préserver durant des millénaires. Les rivières écument, les usines fument, les moutons mangent leur papa changé en granulé. Les déchets ultimes, la vache qu'on opprime, sont un petit cadeau du ciel de nos industriels. Je suis vert, 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 je suis vert de colère contre ces hostiles.
De retour à Délirium environnemental, vous avez entendu l'excellente chanson qui représente bien notre état d'esprit, quoi qu'on aurait probablement trouvé un autre riff de guitare pour bien partager. C'est une chanson de Pierre Perret et vous l'aurez deviné, ça s'appelle Vert de colère. Nous, on l'aime beaucoup. Donc, de retour au Délirium environnemental, après la petite montée de lait, excusez-moi pour l'expression qui fait dresser les cheveux sur la tête de bien des femmes, mais bon, écoutez, on trouve que ça le dit bien. Après, donc, l'envolée de Nicolas Mainville, Hugo Lachapelle, autre collaborateur et cofondateur de Délirium environnemental, il va, lui, d'un sujet qui le préoccupe et qui l'habite ces jours-ci, qui peut-être pas le bouleverse, mais en tout cas, l'inquiète, et c'est l'occupation du sol.
Ben oui, avec tous les fameux projets de transport dont on a discuté et dont je veux pas revenir là-dessus trop, mais finalement, on s'aperçoit qu'il y a une chose qui est vraiment claire, c'est que tout le monde dans notre nation aime bien se promener en voiture et c'est à eux qu'on veut plaire le plus lorsqu'on fait des campagnes électorales. Peut-être un petit retour que je vais me permettre sur tous les projets de transport, notamment la 25 et la Notre-Dame, qu'on essaye de passer en vitesse, là, tout du moins la 25, mais la Notre-Dame, je suppose que ça va être un peu le même processus, on va essayer de se dépêcher. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan de transport qui s'en vient, puis je soupçonne fortement qu'on veut se débarrasser de ces projets-là avant qu'on prenne des engagements dans un plan de transport qui vont être plus contraignants que ce qu'on a en ce moment. Point. Prochaine chose, moi, et là, aidez-moi un peu là-dessus, j'ai comme une espèce de frustration quant à tout ça, parce que on le sait qu'il y a quand même une raison pour bâtir ces autoroutes-là, c'est parce que on a beaucoup de trafic qui se promène en voiture. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans des banlieues qui où c'est pas pratique, c'est pas faisable, en fait. Il n'y a pas la densité nécessaire pour mettre des infrastructures de transport en commun. Et moi, ce qui me taponne là-dedans, c'est que finalement, toutes ces banlieues-là sont créées par des développeurs urbains comme Brigil Construction, Cargill, je pense que ça fait, je connais pas les noms. Mais
Melati
bref.
Construction.
Pardon?
Donc
Melati Construction dans l'ouest de Montréal. J'aime ça implanter.
Donc, à des promoteurs privés.
Oui, des promoteurs privés qui s'accaparent le territoire et qui décident on va bâtir des banlieues de ce genre-là parce que ça se vend bien. Étrangement, ils n'ont pas remarqué que certains des quartiers centraux de Montréal ont maintenant des prix de maisons qui débordent là, tout entendement. Ça n'a aucun bon sens. On ne peut plus s'acheter des propriétés au centre-ville parce que de plus en plus de monde sont intéressés à venir vivre dans ce style de vie-là, dans des quartiers où il y a des commerces de proximité, où on peut marcher, où on a des activités culturelles et sociales, où on a des parcs, où on a des interactions sociales avec des gens des alentours. Et c'est toute la beauté que les gens sont en train de découvrir. Et là, dans nos banlieues, il y a comme un branlage. Et puis, finalement, c'est des grands promoteurs qui s'occupent de développer ça. Comment ça se fait que...
Si on peut appeler ça du développement.
Ben, c'est ça. C'est du développement tout croche. En fait, en anglais, ils appellent ça leapfrog, la banlieue à saut de grenouille. On a un petit parc industriel, un petit village, un dépanneur. Pas un village, une banlieue avec rien d'autre que des maisons.
Toutes pareilles.
Avec des rues que l'État paie, finalement, pour les quelques dizaines de résidents qu'il y a dans ces rues-là. Alors finalement, je sais pas, je trouve que c'est des investissements qui sont vraiment pas bien faits, qui sont pas justifiés. Puis non seulement ça, mais ils sont faits sur certaines des terres les plus fertiles qu'on avait, les terres qui ont été à la base du développement de nos villes.
Mais c'est à cause, ce qui est important de comprendre, c'est que présentement, la logique en périphérie de Montréal, c'est que c'est le pied carré de terrain qui lead l'affaire. Le pied carré vaut tant.
Le prix au pied carré.
Le prix au pied carré, effectivement. Et les maires de ces municipalités-là sont conscientes, ou sont conscients, dépendamment si c'est un fan.
Sont conscients, probablement.
Plus conscientes, conscientes, malheureusement.
75% des postes de pouvoir sont occupés encore par des hommes.
Et voilà. Eh bien, ces maires-là sont conscients que ce qui rapporte le plus pour eux pendant un mandat, c'est la vente d'un terrain à un particulier. Et c'est pas ce que le terrain va valoir à long terme. Donc, on a tout intérêt à promouvoir ce que présentement, on essaie d'imposer comme idéologie à une population, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'avoir une qualité de vie qui se calcule en grandeur de terrain qu'on a, et non pas en réduction de la distance parcourue en automobile ou ces choses-là. Mmh. Parce qu'on a des exemples qui sont hyper intéressants. La ville de Mont-Saint-Hilaire, j'en parlais la semaine passée, c'est un super bel exemple. Mmh. On est en train de recréer l'espèce de petite ville autour de la gare. Mmh. La garderie est là. J'allais dire l'église, mais l'église peut être là. Mais le marché est là, tout se passe autour de la gare.
Et mais... ça, c'est des promoteurs qui l'ont fait, mais pourtant, ça représente à peu près quoi? 1%, 0,5% des projets. Pourquoi veut-on, pourquoi insiste-t-on pour bâtir des banlieues alors qu'ils ne sont pas en train de se valoriser énormément, contrairement aux autres types d'usages de... Les sols qu'on fait, ouais.
Mais c'est aussi pour qui est-ce qu'on les bâtit, ces banlieues-là? Vous savez que les projets de Mont-Saint-Hilaire, c'est combien? C'est quoi le loyer pour vivre dans une banlieue densément peuplée? Mmh. C'est extrêmement cher. On parle pas de quelque chose qui est accessible à tout le monde. Si on veut développer des projets environnementalement soutenables, on donne accès à des gens qui ont un gros portefeuille, qui sont prêts à investir, puis qui ont cette conscience-là. Malheureusement, c'est encore la même chose qui se répète, c'est l'argent mène le monde, puis le monde est mené par
l'argent.
Le futur de l'environnement comme tel, puis malheureusement, c'est les gens qui vont avoir de l'argent qui vont décider s'il y a des projets comme ça qui se développent.
Bouh! C'est mauvais! Allez, on va être obligé de s'arrêter ici, penser à tout ça en musique, et au retour, on poursuit la discussion, parce qu'on se donne une couple de minutes de discussion post-mortem, délirium.
Mais Batman, quel est le bruit qu'on entend?
Robin, je crois que c'est la bombe. La bombe à retardement. Le changement climatique.
Bombe à retardement? Changement climatique? Mais de quoi tu parles, Batman?
Le réchauffement de la planète. Je ne sais plus ce qui arrive, Robin. Ça va péter, je crois.
Mais voyons, c'est pas sérieux, ça va pas péter.
Les changements climatiques te préoccupent? Fais ta part pour le défi d'une tonne. Contribue à la lutte au changement climatique en prenant une douche rapide au lieu d'un bain. Une douche de 5 minutes nécessite jusqu'à 50% moins d'eau chaude qu'un bain. Pour en savoir plus, visite le www.faitapart.net parce que les changements climatiques, ça nous concerne tous.
Hey, de retour à Délirium environnemental pour la dernière discussion ouverte pour 3 minutes à peu près. Puis après ça, on va se faire les coups de cœur, coups de masse et au calendrier cette semaine. Nicolas Mainville, tu voulais ajouter quelque chose?
Je voulais ajouter quelque chose parce qu'on a maintenant un nouvel outil disponible pour tous les citoyens de cette planète. C'est-à-dire, on peut savoir comment se développe, comment se fait l'étalement urbain, comment se coupent nos forêts, comment se gère notre territoire par le biais de photos satellites, d'images satellites live que vous pouvez trouver sur Internet. Vous allez sur Google Maps. Vous avez accès à toutes les images si vous voulez savoir où est-ce qu'est rendu les coupes où est-ce que sont rendues les coupes forestières au Québec. Vous allez là-dessus, vous pouvez zoomer d'une façon impressionnante, aller voir tous les détails sur le terrain. Et je pense que c'est un outil extrêmement intéressant point de vue mobilisation populaire puisqu'on peut savoir comment les choses avancent. C'est le genre de choses qu'on ne savait pas avant. Avant même, par exemple, l'apparition de l'aire boréale, on savait même pas qu'il y avait des coupes désastreuses qui se faisaient. Ben, en tout cas, il y en avait qui le savaient, mais c'était pas quelque chose qui était connu publiquement. Mm-hmm. Mais maintenant, avec ces outils-là, on peut devenir des citoyens conscients de ce qui se passe sur l'ensemble du territoire.
Mais on voit pas la rainette Faux-Grillon qui est obligée de déménager.
C'est trop petit pour le satellite.
C'est petit, c'est tellement petit.
Un petit bout de petit doigt.
Oui, mais c'est important.
C'est tout à fait important.
Donc, pour les gens qui voudraient aller voir ces photos satellites-là, Google Maps.
Oui, Google Maps. En fait, il y a plusieurs sites. Il y a Géogratis qui fait ça aussi. Et puis, allez sur Google, cliquez Maps gratuit, satellite. En tout cas, tout est possible. Là, mais c'est vraiment un nouvel outil qui est disponible pour tout le monde.
Eh bien, voilà, c'était une belle petite précision. Messieurs, pour les dernières minutes pendant lesquelles nous pouvons encore occuper l'espace public montréalais par les ondes radio.
Mondiaux, en fait. Ah oui, n'importe où, Mondiaux. Grâce à Internet. Ouais. Mais, dans le fond, cette étape-là d'aller voir de visu sur, par exemple, des supports Internet, où est-ce qu'on reprend ces images-là qui sont, ma foi, très frappantes. Je pense, entre autres, aussi à d'autres images où est-ce qu'on voit, par exemple, l'éclairage nocturne sur la planète,
oui.
Où est-ce qu'on voit, entre autres, en Europe ou dans l'Est de l'Amérique du Nord, la clarté de paysage qu'on a même en plein milieu de la nuit, c'est des images qui frappent beaucoup. Mais ce qui est aussi important, c'est d'essayer de ramener ces réflexions personnelles à plus que l'action qu'on pose. Je vous donne un exemple. Et là, ce qui est intéressant, c'est que peu importe l'auditeur que vous êtes, que vous soyez depuis 20 ans conscientisé par les problématiques environnementales ou que vous commenciez dans votre vie tous les jours à recycler ou peu importe, mais c'est d'essayer de commencer à penser jusqu'où l'action qu'on pose peut avoir des effets. Quand on achète, par exemple, une automobile, on parle beaucoup des automobiles hybrides ces temps-ci, comme voie vers l'avenir pour réduire notre consommation énergétique. Mais il faut penser en même temps que ces automobiles-là ont été construites. Et leur vie ne commence pas à partir du moment où est-ce qu'on les a, mais ont commencé avant. Et là, c'est un exemple très, très terre-à-terre pour vous montrer que l'action qu'on pose en tant que citoyen, mais aussi en tant que collectivité, parce que tout repose pas juste sur les épaules de monsieur, madame, tout le monde, qui, en achetant bio ou en laissant pas couler leur robinet, change le monde. Mais chaque action qu'on pose s'inscrit dans un processus qui est pas seulement l'action de l'être humain, mais qui est beaucoup plus long que ça. Et si on avait seulement le temps ou l'envie en tant qu'individu de réfléchir à ces choses-là, mais je suis convaincu qu'il y aurait beaucoup plus de personnes dans la rue, comme ça a été le cas pour le Souroi, mais pour se mobiliser contre la 25, contre la Notre-Dame, contre les OGM, contre tous les projets qui font vraiment pas l'unanimité, mais qui sont portés par ceux qui ont la pièce maintenant. Et c'est, moi, ce que j'aimerais dire en fin de Délirium, si je peux me permettre, c'est justement ça. C'est qu'en prenant conscience de ces choses-là, eh bien, on est capable d'amener notre petit plus à ce poids-là qu'on a en tant que citoyen, et pas juste en tant que consommateur ou quoi que ce soit, mais pour faire changer les choses.
Justement, par rapport à ça, vous avez cette responsabilité en tant que citoyen. Et je pense qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, une coalition qui s'est formée. Quand on parle de la gestion du territoire et de la disparition des milieux naturels ici même à Montréal et en banlieue, eh bien, écoutez, il y a une manifestation qui s'organise le 30 avril prochain. La nature débarque en ville. C'est le Front Vert qui organise ça, une coalition de plusieurs groupes. Ça va se passer samedi prochain, le 30 avril, à 1h à la Place du Canada. C'est donc Angle Peel et René Lévesque. Prenez le métro Bonaventure au Peel pour pas vous rendre là. Et puis, vous allez avoir présentations de certains représentants. Je pense que c'est une cause extrêmement importante à défendre, puisque ça nous concerne tous. Ces milieux naturels sont, je crois, une question de santé mentale et santé physique. Donc, déplacez-vous le 30 avril prochain. La nature débarque en ville.
Retour à Delirium Environnemental pour la dernière fois. On se fait le plaisir de partager avec vous nos coups de cœur, coups de masse et au calendrier cette semaine. Ouais. Messieurs, faites-vous plaisir, la petite musique va bientôt partir.
Ben moi je me lance.
C'est
parti.
C'est qui va? Allez-y.
Ok, moi je me lance. Eh bien, en cette dernière journée de la saison, je vous lance mes 5 coups de cœur, prédictions de ce qui risque de rester pour longtemps. Et c'est des graines que je sème en 30 secondes. Eh bien oui, les véhicules hybrides, attendez-vous à en voir partout. Je suis d'accord que c'est pas parfait, mais c'est bien mieux que les gros. Le vélo! Parlons du vélo. Hein? On n'en parle pas assez du vélo. Après ça, les buildings verts. Parlons-en des buildings verts. On n'en parle pas assez des buildings verts. Je vous parle maintenant des toits verts. Les toits verts. On n'en parle pas assez des toits verts. Et je finis par les énergies vertes. Il y a beaucoup de verre dans cette histoire. C'était mes 5 coups de cœur. Mettez-les dans l'ordre et dans le désordre. Ils vont rester longtemps.
J'en profite pour annoncer justement au calendrier cette semaine. Vous savez, cette émission à 100% écolo qui se passe au 9. Moi, je le prends pas malheureusement parce que j'ai pas le câble. Mais ça peut valoir la peine d'aller voir ça cette semaine. Entre autres, il sera question des toits verts avec Emmanuel Guéhin, qui est une des animatrices de cette émission-là. Pour ceux qui voudraient l'écouter cet été par une petite journée de pluie, vous aurez peut-être l'occasion de voir la binette des différents collaborateurs de Delirium Environnemental, puisque c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons participé à une série de conversations, discussions, débats avec l'équipe de 100% Écolo. Donc, pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations, 100% Écolo, le magazine TV d'information en environnement.
Moi, j'aimerais envoyer un coup de cœur à toutes ces petites îles du monde où il y a beaucoup de densité d'habitants. Il y a beaucoup de monde sur un petit espace. Et c'est des gens qui ont finalement fini par faire face à leur bébite bien avant nous. Et c'est certains de ces gens-là qui sont en train de développer les solutions les plus innovatrices, qu'on pense à des îles en Colombie-Britannique ou des îles en Asie du Sud-Est. C'est eux qui, je crois, détiennent beaucoup des solutions de notre futur.
Ça, c'est quand Singapour remplit pas tout le tour de son île, comme si vous en avez déjà parlé.
Ouais. Mais moi, je continue sur ma lancée en tant qu'appel à votre statut de citoyen. Vous savez, la Ville de Montréal, il y va d'un plan de stratégie de développement durable. Le Québec veut se doter d'un plan de développement durable. Dans les universités, on a des politiques environnementales qui nous touchent, mais ces choses-là avancent rarement avec d'autres moyens que des coups de pied dans le cul. Alors, je vous incite en tant que citoyen d'être promoteur de ces coups de pied au derrière, de pousser nos élus, pousser nos représentants à agir de façon plus concrète sur le milieu qu'ils ont le pouvoir de gérer et de les inciter à poser de réelles actions. Merci.
J'en profite donc pour faire un autre coup de cœur aussi, en même temps, un peu dans l'idée de l'émission avec laquelle on a développé tout au long des saisons de l'émission, c'est l'idée de faire tout ça avec le sourire. Vraiment, les messages passent beaucoup mieux avec le sourire. Oubliez l'image grano ou un peu molle qu'on peut associer aux gens qui s'intéressent à l'environnement. Allez-y avec le sourire et avec humour. Vraiment, pour botter les culs, il n'y a rien de plus plaisant.
Étienne, je vais même faire couper les cheveux demain matin.
Et ça, c'était Étienne Côté-Paluc, celui qui conçoit notre site web et qui également assure la régie, la mise en onde. Prochain coup de cœur, coup de masse ou encore au calendrier cette semaine.
En fait, moi, je suis très fâché, Étienne. Ouais. Je vois pas où tu prends ça, le sourire.
Non, c'est quoi les granos, ils ont l'air bêtes? C'est quoi cette histoire?
Mou?
Écoutez, pour la première fois dans l'histoire de Delirium Environnemental, je vais faire un coup de cœur au gouvernement Charest d'avoir fourni autant de matériel pendant les derniers mois et même les dernières années. Écoutez, on a sous nos yeux une espèce d'amalgame politique explosif. On ne sait pas c'est quoi qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines années, point de vue avenir politique québécois et canadien. Mais une chose est sûre, le cynisme politique est à son comble et c'est à notre devoir en tant que nouvelle génération de prendre le lead et d'offrir des solutions concrètes, des solutions non pas seulement en votant, mais bien en prenant parole un peu partout.
Et moi, j'y vais de mon coup de cœur. C'est un classique peut-être, je le dis souvent, en environnement, il va falloir apprendre à faire preuve d'imagination. Justement, si on veut se construire des lendemains plus verts, il va falloir qu'on apprenne à penser peut-être autrement, entre autres le développement, entre autres l'urbanisation, entre autres la semaine de 5 jours. Peut-on se dire qu'on veut désormais des semaines de 4 jours et la journée supplémentaire, nous la prendrons pour mieux nous occuper des gens qui nous entourent et de l'environnement qui nous entoure? C'est un souhait que j'aimais aujourd'hui. Ça nous prend des semaines de 4 jours. Ça nous prend des moyens pour être justement conséquents de nos consciences, de prendre le temps de mieux faire les choses.
Participons!
Ah, que c'est beau! Prochain coup de cœur, coup de masse au calendrier encore cette semaine. Ce soir, le 26 avril, au cinéma Beaubien, le film sur Tchernobyl.
C'est Banajewski, un scientifique ukrainien qui s'est fait emprisonner pour ses travaux. Eh bien, allez voir ça, ça vaut la peine. Quand on dit que science et environnement sont intimement liés, il y a des fois des scientifiques qui paient cher de leurs actions.
Je reprends le micro aussi pour vous appeler à regarder une petite chronique qui va commencer dans le métro dans les jours qui suivent. Notre chère animatrice préférée commence une petite colonne, donc à tous les mois, vous pourrez la voir là-bas. Une petite parenthèse comme ça en terminant.
La lire surtout, j'espère, plus que la voir. Merci, Étienne. Côté Paluc, prochain coup de cœur, coup de masse, ça va être la fin. Il n'y a même plus le temps. Hey, c'est déjà la fin de cette grande aventure. Pour ceux qui voudraient continuer à nous suivre, il devrait y avoir 4 émissions hors série qui seront diffusées uniquement sur les ondes de CIBL. Donc, c'est la fin de la cyberlettre. C'est la fin de la mise à jour du site Internet. C'est une belle aventure. Tous ceux qui en ont fait partie, Hugo Lachapelle, Patrick Bonin, Nicolas Mainville, Nicolas Milo, Étienne, côté de Paluc, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Moi, la fille dans l'émission, c'était Sofiane Legendre. Tous ceux qui ont contribué par leurs critiques, leurs conseils, leurs suggestions, les mails qui nous ont envoyé, toutes les invités qui sont venus nous voir, qui ont partagé leur point de vue, leurs idées, leurs projets, ça nous a fait un plaisir fou. Ceux qui voudront continuer de nous suivre, donc vous pouvez toujours venir voir notre site internet qui sera bientôt moribond, le www.radiodelirium.net.